Bonjour à tous. J'étais à Lézin hier, à l'arrière, j'ai calculé 60 adultes et j'ai misé 30 à 40 personnes ce matin. Je suis heureux de m'être trompé. Bienvenue à chacun. La semaine dernière, Christophe nous a encouragés à être des disciples et il a distingué trois obstacles qui pourraient nous empêcher de suivre Jésus. Le dernier était notamment les disciples qui paniquent dans la barque alors que Jésus dort. Et rappelez-vous, il était question de ne pas... Est-ce qu'on peut juste mettre un peu de lumière? Mais je crois que je vais lire les textes. Non, c'est bon. Je vais lire les textes sur le bimère. Donc j'ai suivi ce texte dans Marc et je suis tombé sur un autre texte qui suit. Ça sera le propos de ce matin. Ce texte d'ailleurs se trouve entre multiplications des pains. Vous savez qu'il y a deux multiplications des pains, à part dans l'évangile de Jean. Ce qui me fait raconter cette histoire pas très sérieuse d'un pasteur réformé qui avait des problèmes d'alcoolisme et puis qui avait décidé de prêcher sur la multiplication des pains. Et il arrive au milieu de son message en disant « Chers frères et sœurs, miracle extraordinaire, le Seigneur Jésus avec 5000 pains et 2000 poissons a réussi à nourrir une foule de 4 à 5 personnes, 5 à 7 personnes. » Puis à la fin, les paroissiens lui disent « Mais pas terrible, hein ?» Il se rend compte de son erreur, alors il retravaille son message et il reprend la multiplication des pains et il arrive au moment extraordinaire. Rendez-vous compte, frères et sœurs, le Seigneur Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, a nourri une foule de 5000 personnes. Puis là, il y a un gars qui se lève dans la salle et qui dit « C'est normal avec les restes de la semaine dernière ». Revenons aux choses sérieuses. Lecture de Marc 7. Est-ce que tu peux afficher? Voilà. Je crois que je vais lire parce que là... Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Retenez ce détail. Mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Mais Jésus lui dit, retenez bien ces phrases, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. » et de le jeter au petit chien. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et puis juste après, quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole, qui est aussi un pays païen, comme nous le verrons. Jésus partit de là. C'est important de savoir dans quel contexte il est à ce moment-là. Vous relirez tout le début du chapitre 7, parce que Jésus sort d'une controverse dogmatique avec les pharisiens. Rapidement résumé, ces derniers pharisiens religieux reprochent que les disciples de Jésus ne se sont pas lavé les mains avant de manger. C'était la période avant Covid. Et là, on touche au rite de la purification. Souvenez-vous des jarres d'eau présentes aux noces de Cana. C'était un rite qui était dans la loi de Moïse, mais qui était réservé spécifiquement pour les prêtres et pour les Lévites et pour ceux qui servaient au temple. Il fallait aussi laver les coupes, etc., qui étaient consacrées pour le culte à Dieu. Mais les pharisiens cherchent à imposer ces préceptes religieux, ces rites, à toute la population de manière à pouvoir imposer un certain pouvoir religieux sur les consciences des personnes. Vous saisissez, c'est ce qui se passe en Iran. Il y a une police des mœurs, il y a des gens qui dénoncent celui-ci, celle-là, elle n'a pas porté son voile dans l'escalier de l'appartement. Il y a une surveillance permanente, une pression quand même sur la foule. Et Jésus, on le sait, n'arrive pas à les convaincre. Alors il va se retourner vers la foule qui est témoin de cette confrontation. Et là, il va leur dire, alors là, j'ai vraiment besoin de la lumière. Je crois, excusez-moi. Jésus appela toute la foule et lui dit, écoutez-moi et comprenez. Écoutez-moi et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Et puis il rajoute cette phrase, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, parce que ça veut dire, souvent c'est une phrase qui est rajoutée dans l'évangile quand Jésus parle, il insiste, ça veut dire ce que je dis là est très 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 important. Donc Jésus, ce qui est impur, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme, sa méchanceté, sa convoitise, son immoralité. Le cœur de l'homme est le lieu déterminant où la vraie sainteté est une décision morale et non pas une pratique rituelle que je dois suivre. Et puis ensuite, Jésus se tourne, après s'être tourné vers la foule, il se tourne au verset 16 vers les disciples. Les disciples qui rentrent dans une maison avec lui et ils lui disent, mais ces disciples qui ont pourtant tout quitté disent, mais nous on n'a rien compris à ce que tu voulais dire. Et il a ce reproche en leur disant, mais hommes sans intelligence, ne comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? Et c'est dans ce moment un peu de tiraillement que Jésus n'est parvenu ni à convaincre la foule, ni à convaincre les pharisiens, ni à convaincre même ses propres disciples, que tout d'un coup, il est dit, Jésus partit de là et entra dans le pays de Tyr et Sidon. Ça me paraît très important, il y a comme un tournant, vous le verrez après. Il traverse pas seulement une frontière pour se rendre dans une terre païenne, Tyr, qui est aujourd'hui au sud de Beyrouth, mais il nous est dit qu'il entre dans une maison pour être un petit peu incognito. Et finalement, on sait que par tout le ministère de guérison et de délivrance qu'il a opéré, il y avait beaucoup de gens qui venaient de cette région et qui traversaient la frontière, mais lui, il se retrouve dans un pays païen. Et une femme, maman d'une petite fille qui est possédée d'un esprit impur, brise l'anonymat de Jésus, elle force la porte, elle entre dans la maison et elle demande vraiment au Seigneur la délivrance de sa fille. Elle se jette à ses pieds, autrement dit, elle va adopter la position des petits chiens qui mangent les miettes sous la table. Alors cette femme, elle incarne vraiment tout ce qui représente l'impureté religieuse, j'insiste là-dessus, de l'époque. D'abord, elle est païenne, elle est grecque, elle est syrophénicienne, donc avec tous ces dieux grecs de l'Antiquité, c'est l'incarnation vraiment du monde païen. Ensuite, elle est femme, donc quand la période de ces règles commence et est dure, elle est, selon les juifs, rendue impure. Et puis ensuite, elle a encore le malheur d'avoir une fille qui est possédée d'un esprit impur. Donc c'est un peu la totale. Elle n'est donc pas simplement une différence culturelle ou religieuse, elle est la représentation de l'impureté comme les juifs la voyaient à l'époque. Et face à elle, Jésus se tient. Et il marque d'emblée leur différence. Il y a comme une irréconciliabilité de fait qu'il décrit comme une fatalité à travers ce verset 27. Est-ce qu'on peut le remettre, s'il te plaît ? Et c'est là qu'il va lui dire cette phrase qui, est, pour moi, a été jusqu'à maintenant énigmatique, je vous le conseille, enfin je vous le confesse plutôt. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Le terme grec pour le mot enfant qui est utilisé par Jésus est un peu original. D'après un commentaire, il s'agit du mot tekna qui signifie l'engendrer, l'engendrer. On pourrait donc traduire cette phrase de Jésus par à la femme, laisse d'abord les enfants d'Abraham se rassasier du pain de vie que je suis, alors que tu n'es qu'un petit chien païen et chapardeur. J'exagère peut-être un peu, mais imaginez quand même. Et c'est vrai que les chiens, encore aujourd'hui en Orient, il paraît que c'est toujours un sport si on peut en écraser un avec la voiture, un chien errant. C'est affreux, mais c'est comme ça. Parce que c'est un animal qui est pas du tout béni comme la SPA chez nous. Donc Jésus, il va jouer le jeu de ces rivalités historiques, culturelles entre eux deux. Il rappelle une sorte d'abîme irréconciliable entre le pur et l'impur. Et la réponse de la femme syrophénicienne va ébranler le monde spirituel. Il y a d'abord ce vrai Seigneur, une sorte de confession. On pourrait la traduire, tu es vraiment le maître de la vérité, tu as raison. C'est vrai Seigneur. Donc, elle reste dans cette position d'humilité. Mais elle ose rajouter un « mais ». Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Cette femme, que tout oppose a priori de Jésus, ne se pose pas de front à lui, mais elle l'appelle Seigneur, elle reconnaît son autorité, mais avec une argumentation très fine, elle propose un changement de point de vue. Non plus le rassasiement de certains privilégiés, mais un partage. Que tous puissent manger de la grâce de Dieu, ne serait-ce que des miettes qui tombent de la table et je serai sauvé, se dit-elle, ou dit-elle à Jésus. Et là, à cause de cette parole, Jésus, c'est Jésus qui le dit, le démon est sorti de ta fille. Il y a comme un instantané entre la parole de cette femme païenne et la délivrance de sa fille. Elle a ouvert une frontière, elle a ouvert un espace pour que l'Esprit de Dieu, avec la puissance purificatrice du Seigneur, élargisse l'action de Dieu sur toutes les nations. Là, il y a un véritable tournant dans le ministère de Jésus et dans l'Évangile. On entre dans la prophétie du personnage Siméon dans le temple quand il voit Jésus qui est enfant, qui est bébé à l'âge de 7 jours pour la circoncision et qui dit « Mes yeux ont vu ton salut préparé pour tous les peuples. Derrière, lumière pour la révélation aux païens et gloire pour Israël, ton peuple » dans Luc 2, 22 et 23. Et puis, une chose aussi paradoxale que nous cite l'évangile de Jean, au chapitre 19, versets 19 à 20, Pilate, au moment où il condamne Jésus à la croix, il inscrit lui-même de sa main dans les trois langues universelles de l'Empire romain, c'est-à-dire le grec, le latin et l'hébreu, Jésus, roi des Juifs, et il le demande qu'il soit placardé sur la croix. Comme s'il y avait aussi une universalité dans la mort sur la croix pour les nations, de la part de Jésus. Au moment d'être invité à la table de la Sainte Cène, pour nous nourrir du pain, corps du Seigneur, la liturgie de l'Église réformée dit cette prière. « Seigneur, je ne suis pas digne de manger à ta table, mais dis une seule parole et je serai guéri. » Cette prière est paraphrasée à celle de la femme syrophénicienne, mais elle est pour toi ce matin. Elle est pour toi qui, et je suis heureux de voir qu'il y a, c'est encore une minorité, mais ce qu'on appelle des étrangers, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas du canton de Vaud, voire un peu plus loin, beaucoup d'Africains, des Portugais, j'en oublie plein d'autres, et probablement que c'est vrai que vous êtes d'un monde différent. Peut-être que vous avez de la peine à vous faire accepter avec les valeurs qui vous portent. Peut-être que vous avez un besoin d'être aimé. Peut-être que, comme la jeune femme syrophénicienne, vous avez poussé pour la première fois, je sais c'est le cas d'une personne, vous avez poussé la porte de cette maison où se trouve Jésus, même s'il se trouve partout. Et c'est là qu'il aime résider, au milieu de ses enfants. Et Jésus, dans cette église, le Seigneur te dit, mais bienvenue, bienvenue mon enfant. Mais prononce cette prière sur ta vie. Je ne suis pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais dis une parole, Seigneur, et je serai guéri. Je laisse pour que vous soyez, au cas où vous ne vous sentiez pas encore différent, rejeté, pas compris, même dans l'Église, ça arrive, que le Seigneur vienne attester cela sur vos vies. Je laisse un temps de silence pour cela. Baissons nos yeux et faites cette prière si vous en ressentez le besoin. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais dis une seule parole et je serai guéri. Seigneur, tu poses sur chacun vraiment la délivrance, la perspective d'être pleinement dans l'alliance des enfants d'Abraham, dans l'alliance d'Israël, et comme nous, enfants de Dieu, et présents dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Pour certains savent qu'il y a, pendant une période de ma vie où je me suis rendu beaucoup en Roumanie et j'étais tout de suite captivé, je ne rentre pas trop dans les détails, par, bon ça fait déjà il y a 30 ans, juste après la chute du communisme, et j'étais très frappé par la présence des tziganes. Avec leurs chevaux, avec leurs chariots, avec les femmes, avec les robes toutes bariolées de couleurs. Ça m'a toujours surpris, intrigué. Et quand je me suis retrouvé à Unedora avec même des pasteurs ou des chrétiens, et puis que, bon, évidemment, les Roms venaient mendier comme ils avaient l'habitude de le faire, j'étais très surpris du rejet, même de la part de pasteurs, qu'il manifestait vis-à-vis de cette population. Et je leur ai dit un peu ma surprise. Et ils m'ont dit, mais tu ne comprends pas, c'est vraiment, ils ne sont pas du tout comme nous. Tu devrais voir, c'est des voleurs, des chapardeurs, etc. Bon, j'ai gardé mon jugement. Et puis, quelques années plus tard, vers les années 2010-2018, nous avons eu la joie ou la méjoie d'avoir des Roms, des Tziganes qui venaient de Roumanie pour mendier à Lausanne. Et ils avaient cette autorisation à l'époque. Vous vous souvenez peut-être encore. Et moi, j'habitais en plein centre de Lausanne. Il suffisait que je sorte de chez moi. J'avais 200 mètres à faire pour aller à la Migros. Mais j'avais un Rome devant le Postomat, juste après un Rome devant le Bancomat, et puis encore un autre devant la COP, avant un autre devant la Migros. Donc, tout d'un coup, j'ai commencé à me dire, ouais, mais ils m'énervent ces gens-là quand même. Et je me suis rappelé de la réaction des chrétiens roumains à l'époque qui devenaient la mienne. Et puis, il y a eu cet épisode avec Rachel Monneron-Vlad, aujourd'hui, qui vit en Roumanie, qui parlait le roumain, et puis qui faisait un travail de sens social justement sur les Roms mondiaux pour son diplôme. Et elle me dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour les Roms à Lausanne? Alors elle n'habitait pas Lausanne. Est-ce que tu sais où ils se trouvent? Alors je dis, ouais, juste derrière, il y a un parking au Vélodrome où ils logent dans leur voiture le soir, et puis ils font la popote, ils font leur lessive. Souvent, les femmes pendaient les robes bariolées sur les buts à l'époque quand il y avait encore les matchs de foot. Donc le dimanche, on faisait le culte sur les talus, et puis il y avait toutes ces robes qui pendaient le long des buts, et puis il y avait les gardiens qui essayaient d'arrêter le ballon. C'était assez drôle. Et puis voilà, quand on va là-bas, moi j'avais pris des souliers, j'avais pris un peu des habits chauds. On était au novembre, comme maintenant, il commençait à faire vraiment froid. Et puis on voulait leur donner un peu d'argent et leur demander, mais quel est votre besoin principal? C'est en roumain que Rachel leur pose la question. Et voilà qu'il y en a un ou deux qui disent, oh, nous on aimerait vraiment lire la Bible. Oh. Surprise. La suite, vous la connaissez, on a fait des cultes pendant 3 ans, dont jusqu'à 8 ans, on a eu le privilège de bénéficier aussi de l'appui de l'Armée du Salut et de leur salle de culte en plein centre à Pépinet, là. Donc c'était assez facile pour les Roms de venir, on a jusqu'à 8 ans de Roms avec violon, accordéon et des chants très touchants et tout, et puis Alex faisait la guitare, les chants, il me traduisait pour la prédication. Et ça, c'est la phase où tout d'un coup, on a commencé à réaimer les Roms, si différents de nous, hein, par leur tradition, par leur comportement. Des fois, il y avait des trucs un peu violents, mais bon, bref. Et puis, il se trouve que je travaillais au plein centre de Lausanne, à la Riponne, Palais de Rumine, Valentin, et puis que des fois je devais faire des déplacements avec des chefs, des architectes, des mandataires d'entreprises, et puis évidemment qu'il y en avait quelques-uns dans le coin qui mendiaient. Alors en Rome, il faut savoir, c'est comme le tigre du Bornéo. Ça, c'est Mike Horn qui raconte ça, l'aventurier. Si vous êtes dans la jungle de Bornéo, puis que vous voyez le tigre de Bornéo, mangeur d'hommes, lui, il vous a vu déjà 10 fois, puis vous, vous êtes fini. Eh bien, en Rome, c'est la même chose. Il vous voit à 300 mètres, il vous reconnaît. Alors, vous avez beau vous cacher comme ça derrière vos collègues. Ah, pasteur, pasteur, mon ami, comment tu vas et comment va ta femme et comment... Et puis, tu sais comment que tu les connais. Et là, on arrive à la phase où... C'est très bien d'aimer nos amis étrangers dans l'Église. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes avec des gens qui sont différents, qui ne posent pas comme vous, des collègues de travail, est-ce que je vais avoir honte du Rome qui m'embrasse ou pas? Vous voyez un peu la différence? Et en fait... Je pense qu'il est très facile d'aimer un étranger, même en mission, d'aller à sa rencontre. Chez nous, c'est déjà plus difficile. Et nous avons souvent, nous, ce réflexe de repli où on aime tellement bien se retrouver avec ceux qui nous ressemblent. Et c'est mon propos pour terminer ce matin. Et pour moi, l'exemple... Le plus parlant dans la parole de Dieu, c'est quand même ce personnage Saul de Tarse, qui était lui-même aussi un pharisien complètement fondamentaliste, qui persécutait les chrétiens, et qui va devenir l'apôtre Paul, qui dira, si tu peux me mettre une série de versets qu'on va lire ensemble. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, Alors moi, j'étais avec des savants, et puis tout d'un coup, j'avais un ignorant qui me serrait dans ses bras. Vous voyez le paradoxe ? Suivons. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis ensuite, je vais vous donner les références. Ah, mais je crois que je ne les ai même pas marqués, je crois. Romains 1, 14. Romains 10, 12, 13. Galates 3, 26 à 27, puis après ce sera Colossiens 1. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en un en Jésus-Christ. Vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, le fameux Abraham, héritier selon la promesse. Et ça, ce verset me paraît important parce que, vous savez, aujourd'hui, on dit « je suis Bataclan ». Je suis comme le président de la FIFA, je suis gay, mais je suis musulman, je suis qatarin, qatariste, ou je ne sais plus comment, et puis je suis européen. Donc, comme s'il ne s'agit pas de lisser nos différences, mais c'est dans le Seigneur qu'il n'y a plus ni Suisse, ni étranger. C'est vraiment dans Jésus, dans la grâce qui nous a sauvés, qui nous a transformés. Et c'est important de voir. Et ici, dans Colossiens 3, 11, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tous. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas toujours facile d'être avec un étranger, même un étranger qui n'est pas chrétien. Je pense encore à une anecdote où quand notre fille aînée, Noémie, avait 10 ans, comme ça, elle n'avait aucun problème pour être acceptée dans le collège, pour ceux qui la connaissent. Donc elle était la seule fille qui était acceptée pour jouer au foot avec les garçons dans la cour. Donc ce côté-là, pas de souci. Mais tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer le soir. Et puis on se demandait pourquoi, et quand on lui a posé la question, elle nous a, avec peine, avoué qu'elle était vraiment persécutée sur le chemin de l'école par une fille qui s'appelait Souad. Alors évidemment, on sait d'où ça vient, ce mot, et ce n'est pas du tout pour critiquer les Arabes. Mais c'était tellement grave qu'on en a parlé à la maîtresse qui nous a dit d'écrire au directeur. Et le directeur a écrit au papa de Souad et à moi pour nous demander de nous revoir pour arranger les choses. Pas très prêt pour ça, mais bon, gros temps de prière avant d'aller chez lui, tapis de prière et tout, donc voilà. Et Dieu merci, non seulement ça s'est bien passé et les choses sont tout à fait rentrées dans l'ordre, mais j'ai aussi pu les bénir au nom du Dieu, au nom d'Allah, au nom du Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas commencé à entrer dans Jésus, j'étais déjà trop content du résultat. Mais voilà, des fois, il ne faut pas croire qu'avec nos différences les uns les autres, ça va tout seul, que tout le monde est béni, et tout le monde est gentil, quoi. On est bien d'accord. Et là, moi, je pense aussi à Joël et Suzanne Bussy de notre église, leur ministère CABES avec les étrangers. Je pense à Véronique, qui est d'ailleurs présente ici et qui, cet après-midi, avec, pour ceux qui se souviennent de Lise Daniel et d'André Gasser, va, avec son groupe Éclat de joie, amener une animation aux enfants au centre des requérants d'asile à Evam, à Écublon. On sait que c'est le centre des renvois. Ceux qui sont là-bas vont être renvoyés. Donc imaginez la tristesse qui atteint ces gens-là. Et elle va là-bas, Véronique va là-bas pour apporter la joie, la paix du Seigneur auprès des enfants avec une animation. Cet après-midi notamment, prions pour elle. Et là, on peut se dire, ouais, ça c'est leur ministère. Et ils cherchent des renforts. Hein, donc, interrogez le Seigneur si vous pouvez être aussi un appui pour eux. Mais il ne faut pas qu'on se dise que c'est leur ministère, ce n'est pas le mien, ce n'est pas mon appel. Je crois que notre appel, c'est peut-être pas forcément d'aller dans un truc aussi spécialisé que ça, mais c'est vraiment de prier pour eux. De prier pour tous ceux qui cherchent à être des briseurs de barrières culturelles, spirituelles. Et ça me paraît important. Donc ils cherchent des renforts pour des camps, pour des temps de partage dans des groupes avec des étrangers. Il y a plein de possibilités. Et c'est vrai que nous ne sommes pas tous appelés à cela, mais nous sommes tous appelés à prier pour eux. Et excusez-moi, mais le deuxième lundi du mois, dans cette église à 20h, alors la prochaine fois, ça sera le 12 décembre. Alors, même si vous avez décidé de venir nous rejoindre, c'est super sympa, mais vous verrez, il y aura sûrement un match de foot super intéressant à la Coupe du Monde. Il va neiger 30 cm, donc ça ne va pas être facile de déplacer. Et, ou alors vous aurez une autre embrouille qui vous empêchera de venir. Mais si vous décidez déjà ce matin de dire non, ben bon, deuxième lundi du mois de 8h à 9h30, 10h moins quart, ça mérite que je m'engage pour au moins prier pour ceux qui sont des briseurs de frontières, des briseurs de barrières spirituelles avec nos amis les étrangers. Alors je vous laisse ça sur le cœur et je vais prier pour que vous soyez convaincus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et on bénit tous nos étrangers qui sont là. Allons vers eux, leur serrer la main, leur demander leur prénom, d'où ils viennent, même à prier pour eux spontanément. Je pense qu'on devrait déjà, à la sortie du culte, casser deux, trois choses, que le Seigneur nous assiste. Eh bien, Seigneur, toi, tu as osé traverser les frontières, tu as osé affronter les différences, et on a vu avec les pharisiens, elles étaient parfois lourdes à porter. Tu t'es retrouvé souvent seul face à eux, même les disciples ne comprenaient pas. Et merci parce que tu as été jusqu'à la croix pour porter, comme il est dit dans Jean, le poids du péché du monde. Et tu es le sauveur du monde, et pas simplement de l'Europe, du Dieu des chrétiens, de telle et telle église. Et ce matin, que si quelqu'un, encore une fois, se sent étranger, eh bien, viens couper ces barrières. Nous bénissons chacun de toute couleur, de toute sensibilité culturelle. Tu les accueilles toi-même et tu nous accueilles aussi à aller être des êtres d'accueil, des êtres qui vont plus loin que peut-être les barrières inconscientes que nous nous sommes mis les uns les autres. Parce que nous aimons tellement être avec ceux qui nous ressemblent, nous aimons tellement être avec ceux que nous connaissons. C'est tellement rassurant, Seigneur, de nous retrouver à table pour un repas avec ceux-ci. Seigneur, que dans ces périodes où nous entrons dans une certaine obscurité due aux saisons, que nous restions des foyers ouverts pour un repas ou pour un moment. Que tout à l'heure aussi nous ayons le courage d'aller à la rencontre de personnes que nous ne connaissons pas dans cette église et que nous les bénissons. Je te demande, Seigneur, de travailler nos cœurs, que nous soyons aussi des intercesseurs pour les ministères de Cabès, d'Éclat de Joie et de plein d'autres, avec les femmes musulmanes. Il y a plein de choses qui existent de manière souterraine. Et nous te demandons qu'il y ait une grande ouverture, que nos cœurs, que nous soyons des soldats de Dieu, prêts à prier, à combattre, à implorer ta grâce sur tous ces gens qui disparaissent de nos écrans, mais qui sont bien là, présents dans notre pays. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen.